les par actualités.
Jeudi 24 avril 2017, avec vous pour la prochaine demi-heure et vos par actualités, François Brodeur en remplacement de Clotilde Seille. Tout de suite, les manchettes. D'abord, le complexe aquatique de la plage, du parc Jean-Drapeau qui sera fermé cet été et la plage qui n'est toujours pas accessible. La tolérance qui s'invite à l'école de cirque de Québec. Un nouveau symbole pour les personnes handicapées. 2 ans après le séisme au Népal, il y a encore des gens handicapés et ça n'est pas toujours en raison de leurs conditions, mais bien des soins qu'ils reçoivent. En entrevue aujourd'hui, on parle à France Geoffroy, qui est fondatrice et directrice artistique de Corpuscule Danse, et aussi à Jean-Marie Lapointe en cette journée d'ouverture du défi sportif Altergo. Et tout ça, ça commence dans un instant. Une nouvelle qui nous vient du Raplic et qui est relayée par lelézard.com. Le complexe aquatique du parc Jean-Drapeau, qui est accessible aux personnes handicapées, fermera pour 2017 en raison de la construction d'un amphithéâtre. La Société du parc Jean-Drapeau et la Ville de Montréal suggèrent comme alternative aux 65 000 utilisateurs la plage Jean-Doré pour combler leurs besoins de baignade et d'entraînement. C'est par inadvertance que le Raplic a découvert que la plage Jean-Doré était totalement inaccessible aux personnes handicapées. Nous avons pris contact avec la Société du parc Jean-Drapeau. Beaucoup de justifications de leur part à la moindre question posée pour nous. Y a-t-il des trottoirs afin que puissent se déplacer les personnes en fauteuil roulant? Avez-vous déjà essayé de rouler sur ou plutôt dans du sable? À la question posée, on hésite, on ne sait trop que dire. Au rappeler qu'on est convaincu que c'est la première fois qu'on investigue sur l'accessibilité aux personnes handicapées. On nous répond que lors de l'aménagement du site en 89-90, on n'avait pas pensé à ça. On tente une autre question qu'on sent brûler à l'avance. Y a-t-il des fauteuils aquatiques? La réponse est aussi inaudible que prévisible, un profond silence. Bien que la Société du parc Jean-Drapeau soit une instance paramunicipale et pas la ville elle-même, force est de constater qu'encore une fois ici en 2017, Montréal et ses paramunicipales ne veulent pas d'handicapés dans sa cour. Donc, récapitulons. Les personnes handicapées sont recluses chez elles l'hiver, puisque la ville est si mal déneigée qu'elles ont peine à circuler en fauteuil roulant. Comme le métro est si peu accessible, 12 stations sur 68, elles ne peuvent pas voyager sous terre. Alors, quand arrive l'été, elles sortent timidement enfin de leur tanière et veulent, comme tout citoyen, profiter de ce que Montréal et ses paramunicipales ont à leur offrir comme divertissement et opportunité de bouger, tels que le complexe aquatique du parc Jean-Drapeau et la plage Jean-Doré. Nous réclamons donc une solution pour que le complexe aquatique ouvre pour l'été 2017 et que la plage Jean-Doré soit accessible universellement. Cette plage où les handicapés ne sont pas les bienvenus. Ça y est, c'est parti! Le défi Altergo est en cours et se poursuivra jusqu'au 30 avril. On ne peut pas passer à côté d'autant de santé, de bonheur et d'humanité. Nous consacrerons des entrevues toute la semaine à ce qui est, croyez-le ou non, le plus grand événement sportif annuel au Canada. Et pour commencer, on le dérange presque à chaud comme ça, Jean-Marie Lapointe qui vient de présider à l'ouverture donc de ces Jeux. Jean-Marie Lapointe, bonjour.
Bonjour François.
Comment allez-vous?
En pleine forme et en feu, surtout que je viens d'assister à l'ouverture de notre 34e édition. Alors, on a vu des centaines et des centaines de jeunes défiler sous une haie d'honneur formée par des ambassadeurs, par des membres du public, par des bénévoles, mais aussi on avait des gens comme des ministres, le maire Coderre était là. Bref, il y avait du dignitaire, puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atmosphère.
Du beau monde et surtout de très nombreux athlètes.
Ah oui, mon Dieu, on a cette année, on brise un record. On va avoir plus de 6700 athlètes handicapés, autant des jeunes des écoles, de la relève, mais aussi on a de l'élite. Donc, c'est de la grosse compétition qu'on attend cette année.
Mm-hmm. Je le disais en entrée, il s'agit maintenant du plus grand événement sportif annuel au Canada. Et pourtant, ça semble passer largement sous le radar. Comment vous l'expliquez?
Très bonne question. Ben, je pense que le sport pour personnes qui a des limitations versus le Canadien de Montréal, c'est de tout le temps plus difficile à vendre.
Et pourtant, ils sont toujours gagnants, eux.
Oui, j'ai ouvert une porte, hein. Mais disons que c'est difficile de répondre à ça parce que même à chaque année, on découvre des nouvelles écoles qui, eux autres, découvrent aussi le défi sportif. Je ne savais pas que ça existait malgré que c'est une école spécialisée. On a des spécialistes de la santé qui découvrent à eux autres aussi que ça existe, le défi sportif pour des enfants, des athlètes handicapés. Ah oui, wow! Mais il n'est jamais trop tard pour faire une bonne action puis de s'inscrire au défi. Mais c'est clair qu'on a devant nous un défi de taille, de sensibiliser, d'éveiller les consciences, puis aussi de montrer à des jeunes et des moins jeunes que l'activité physique, c'est non seulement bon pour leur santé morale et physique, mais c'est aussi quelque chose qui te permet d'éviter l'isolement. Mais aussi, c'est pas toujours facile, hein. Si on n'a pas de transport, on reste à la maison ou on va te parquer à la bibliothèque parce que c'est moins compliqué que de te faire de l'activité physique. C'était souvent ça qu'il y avait dans les écoles avant. Alors, il y a eu des mentalités qui ont changé. Et ça, ben, on peut dire merci au défi sportif et surtout à la fondatrice Monique Lefebvre, au directeur actuel Maxime Gagnon. C'est des gens qui travaillent très, très fort dans l'ombre pour faire amener le défi sportif et de le rendre accessible à plein de gens. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Il y a encore du travail à faire, mais quand on regarde où on est rendu, d'ailleurs aujourd'hui, on a la visite de Yvon Deschamps, qui était le tout premier porte-parole, qui a été là pendant 15 ans. Donc, quand on regarde aujourd'hui comment le défi sportif a évolué, lui-même, il tombe en bas de sa chaise, il dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est rendu tellement gros, c'est incroyable, il y avait de quoi être fier, là.
Mm-hmm. Je voyais dans mes notes que c'est quand même votre 16e année comme porte-parole, mais vous parlez de travail et vous travaillez à peu près toute l'année là-dessus.
Le défi sportif, c'est un événement annuel, effectivement, où il y a quand même un comité qui y travaille. Tu as des employés à temps plein qui sont là aussi pour préparer l'édition à venir. Puis les activités aussi parallèles aussi. Il y a des activités de levée de fonds, il y a des activités de sensibilisation. On va même aller remettre des médailles aux écoles parce qu'évidemment, il y a des écoles qui doivent quitter tôt, aussitôt que leur compétition est terminée. Ils doivent quitter puis ils ne peuvent assister à la cérémonie de médailles. Alors nous, ce qu'on a fait, on s'est adapté à leurs besoins et on va déplacer un comité, une espèce d'escouade de remise de médailles dans plusieurs écoles. Les écoles nous font les demandes, puis nous, ben, on se déplace, puis on fait vivre un événement magique, parce que remettre des médailles, c'est aussi très émouvant, c'est très stimulant pour ces jeunes-là. Puis quand on le fait dans les écoles, à défaut de le faire devant un public ici, mais dans les écoles, ça devient leur public, c'est leur gang qui applaudit.
Oui, et c'est une merveilleuse mesure d'intégration aussi que de souligner les réussites face à tous ses pairs. Dites-moi, la semaine de l'action bénévole coïncide cette année avec le défi Altergo. Or, vous êtes impliqué dans les deux événements, semble-t-il.
Tout à fait. Alors, je suis porte-parole du réseau de l'Action bénévole du Québec, le RABQ. Et j'ai fait des tournées. Je vais donner une conférence au Centre Saint-Pierre mercredi soir, une conférence qui est gratuite d'ailleurs, je peux le mentionner. Et le fait d'être impliqué dans le bénévolat depuis presque une vingtaine d'années auprès de plusieurs organismes et causes, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd au RABQ. Alors, ils m'ont demandé de m'impliquer comme porte-parole avec eux cette année, puis de faire la promotion du bénévolat, puis j'en ai même fait une conférence qui s'appelle « Le bonheur de bénévoler ». C'est pas un vrai verbe encore, mais je pense que ça dit bien ce que ça dit.
Oh, vous savez, c'est très en usage ici.
Oui, effectivement, puis je pense qu'il est en train de devenir un néologisme, puis ça me surprendrait pas que « bénévoler » devienne un mot du dictionnaire. Alors, effectivement, j'essaie de faire la promotion du bénévolat, puis de montrer que, oui, c'est peut-être pas payant financièrement, mais c'est drôlement enrichissant. Puis c'est ce qu'on fait aussi au défi sportif Altergo. Puis je le fais aussi dans les autres organismes avec qui je suis impliqué depuis plusieurs années, qui ont aussi modifié mon ADN, je vous dirais.
Je reviens au défi sportif lui-même. Je voyais qu'il y avait quand même des volets qui sont particulièrement intéressants pour les gens qui ne sont pas handicapés. Comme par exemple, essayez-le, le sport en question.
Ben oui, on a au deuxième étage du centre sportif Claude Robillard une zone d'essai qui nous permet de justement essayer ces sports-là. Puis de, c'est drôle parce que tantôt, on a un ambassadeur, on a deux nouveaux ambassadeurs, on a Frédéric Lefort, puis on a aussi Hugo Girard, notre homme fort national. Et c'était bon de les voir essayer tantôt le basketball en fauteuil, puis de réaliser à quel point que, hey, attends une minute, faut que je dribble, faut que je fasse des passes, faut que je me déplace. Et en plus, je suis assis plus bas que sur mes deux jambes, puis je dois lancer le ballon à un panier qui est à la même hauteur que d'habitude. My God, comment je vais faire, tu sais? Mm-hmm. Donc finalement, ils réalisent que c'est pas tellement facile. On pense que c'est un sport qui a été adapté, mais il n'a pas été facilisé. Là. Il est juste adapté à la réalité de la personne qui a une déficience ou une limitation. Alors ça aussi, ça permet d'essayer les sports, puis de faire, faire prendre conscience aux gens que, ouais, un sport adapté, c'est pas nécessairement facile. Donc, ça fait partie de la mission de sensibiliser. Puis on le sait, hein, quand on se met à la place de l'autre, c'est là qu'on réalise c'est quoi son univers, dans quoi il vit. Et c'est là que notre cœur s'agrandit puis que notre tête s'ouvre.
Toujours en parlant de l'accès au grand public, si on veut assister aux compétitions, et on le devrait parce que la scène est vraiment magique, mais si on veut assister aux compétitions, où doit-on se présenter et combien ça coûte?
Bien, premièrement, ça coûte un gros zéro. Tous les sites de compétition, il y en a plusieurs. On a des sites dans tous les coins de la ville de Montréal. On en a sur la Rive-Sud, on en a en banlieue. Tu sais, on a 7 sites de compétition, dont Longueuil et Boucherville, je mentionnais en banlieue. Mais en allant sur défisportif.com, non seulement on a l'adresse de ces sites-là, on a l'horaire des compétitions, on a des articles, on a des photos, on a des clips vidéo. Donc, on a toute l'information pour y accéder et c'est gratuit. L'entrée est gratuite. L'accès est gratuit pour toutes ces compétitions, autant pour le sport scolaire qui se passe principalement ici à Claude-Robillard ou un petit peu autour, l'aréna Michel Normandin juste à côté aussi. Mais c'est gratuit. Donc, vous voulez assister à des compétitions, vous voulez voir des athlètes performer de haut niveau comme des athlètes de la relève, bien, défisportif.com et ça se poursuit jusqu'à dimanche le 30 avril. Et comme je répète, c'est gratuit. Alors, c'est un événement multisport le plus gros au Canada et c'est gratuit. On est très, très fiers de ça et on est très content de le rendre accessible.
Oui, gratuit et j'oserais dire profitable. Et Monsieur Lapointe, écoutez, je vous retiendrai quand même pas plus longtemps. Je devine que vous devez être très, très, très occupé. Je vais vous souhaiter une semaine grandiose et je ne doute pas qu'elle le sera.
Elle est bien commencée, en tout cas. Merci, François, du temps d'antenne que vous nous donnez. Puis vous êtes le bienvenu, puis passez le mot. On vous attend jusqu'à dimanche, défi sportif. C'est un événement qui change des vies, qui donne des sourires et qui déplace notre attention du petit nombril jusqu'au cœur.
Merci.
Ça fait plaisir.
On se déplace à Québec où on parle de cirque, rien de moins. Depuis environ 5 ans, le cirque a fait son entrée dans le quotidien de Mauro Rodriguez et Gabriel Kafka et de leur famille. Avec les autres élèves, ils apprennent à sauter, jongler, rouler et se tenir en équilibre. L'un vit avec l'autisme, l'autre avec la trisomie. Depuis maintenant 10 ans, l'École de cirque de Québec accueille un programme consacré aux élèves vivant avec des besoins spécifiques. Chaque session, près d'une dizaine d'élèves, dont Mauro et Gabriel, viennent dépenser leur énergie à l'école dans le programme de loisirs. Ils sont avec un groupe de leur âge et un éducateur les accompagne dans leurs activités. Le programme n'est pas seulement bénéfique pour ces élèves, il l'est aussi pour l'ensemble des groupes, selon Nancy Lessard, directrice du secteur des loisirs à l'École de cirque de Québec. Ça leur montre la différence et la tolérance, croit-elle. Il manque de ça dans le monde en ce moment pour que ça aille mieux. Même les entraîneurs qui ont travaillé à l'école comme premier emploi l'ont remarqué. J'en ai qui sont revenus me voir et qui m'ont dit comment ça leur a été bénéfique, se remémore la directrice tout sourire. Travailler avec ces enfants-là, ça ramène les choses à l'essentiel, à l'humain. Quand le père de Mauro, Rodrigo Rodriguez, est arrivé à Sainte-Foy avec sa famille, il ne connaissait encore personne et commençait à apprendre le français. Son fils Mauro avait déjà un intérêt marqué pour le cirque grâce à un disque du Cirque du Soleil. Quand, par hasard, ils ont croisé l'École de cirque de Québec en 2011, ça a été un véritable coup de foudre. Ici, c'est un endroit où on se sent à l'aise, explique le papa. C'est plus qu'une école, c'est une famille. Comme de fait, après Mauro, ses trois autres enfants se sont inscrits à des cours. Chez Nadine Tremblay, la maman de Gabriel, c'est la technicienne en éducation spécialisée qui lui avait recommandé d'inscrire son fils à une activité sportive lorsqu'il n'avait que 4 ans. De fil en aiguille et grâce à quelques connaissances, c'est à l'école de cirque de Québec qu'ils se sont retrouvés. Maintenant, il est plus indépendant, il gagne en autonomie, voit sa mère. 5 ans plus tard, les deux parents ne peuvent que constater les effets bénéfiques qu'a eu le cirque sur leurs enfants. Après quelques mois, Nadine a remarqué des changements chez son garçon qui développait petit à petit sa motricité et son tonus. Ce sont des changements qui prennent du temps, mais après plusieurs années, ça fait toute la différence, croit la maman de Boischatel. Puis, ce sont les aptitudes sociales des deux garçons qui ont évolué. Ce n'est pas juste les exercices physiques qui s'améliorent, c'est aussi la connexion avec les autres, remarque Rodrigo. Rodrigo et Nadine en conviennent, c'est difficile pour les parents d'enfants vivant avec une difficulté intellectuelle de trouver un sport auquel leur enfant pourra participer. Souvent, les règles deviennent trop complexes et donc difficiles à suivre pour certains jeunes. Ici, on a un outil extraordinaire entre les mains, estime la directrice de l'école. C'est que le cirque permet d'apprendre à son rythme et de façon individuelle, tout en étant intégré à un groupe d'amis de son âge. Et c'est un texte qui nous vient de québechebdo.com. En ligne avec nous, France Geoffroy, qui est fondatrice et directrice artistique de Corpuscule Danse, une compagnie spécialisée en danse intégrée. Pionnière de la danse intégrée au Québec, France Geoffroy danse en fauteuil roulant depuis 15 ans. Elle est également enseignante, mentor, conférencière et organisatrice d'événements. Elle milite ardemment pour l'épanouissement artistique des personnes handicapées. Alors, ça me fait très plaisir de vous dire bonjour, Madame Geoffroy.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Ah, moi, ça va merveilleusement bien. Rappelez-nous d'abord, c'est quoi la danse intégrée? Parce que c'est quand même pas un concept très, très, très connu.
La danse intégrée, en fait, c'est une... c'est de réunir les personnes avec et sans handicap. Ça existe depuis les années 80, d'abord aux États-Unis et ensuite en Angleterre. C'est pas mal les deux berceaux de la danse intégrée. Et moi, je pratique la danse intégrée depuis plus de 20 ans. Je pense que mon site Internet n'est pas à jour. Si vous avez été chercher de l'information, c'est ça. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça ici au Québec.
Ah, mon Dieu, c'est déjà une longue carrière pour un danseur. C'est quand même impressionnant. Et y a-t-il beaucoup de compagnies qui pratiquent ce genre de danse-là?
En fait, au Québec, je trouve qu'il y a d'autres compagnies qui font un travail similaire. Si je pense à les productions Les Pieds et des Mains ou encore l'école de formation Les Muses, eux, ils jumellent le handicap intellectuel et les personnes sans handicap. Mais la pratique que moi, je fais, puis la façon dont je la définis, moi, c'est un terme qui me vient justement de l'Angleterre puis des États-Unis. Mm-hmm. Donc, je serais, oui, la seule compagnie à faire ce genre de travail-là, du moins à l'appeler. De cette façon-là, la danse intégrée.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des partenariats de temps en temps entre compagnies, justement, pour intégrer des danseurs présentant des handicaps?
Moi, je travaille... c'est pas mal moi qui vais chercher là, les personnes avec handicap avec qui j'ai envie de travailler. J'ai, entre autres, sollicité Maxime Despomerleau, je travaille avec Marie-Hélène Bellavance, mais c'est pas des partenariats là, à proprement dit de compagnie en compagnie. Là. Mais par contre, quand je travaille au niveau de l'enseignement, parce que Corpuscule a deux volets, un volet performance qui évolue dans le milieu professionnel de la danse et un volet enseignement qui est plus du loisir communautaire, ben là, souvent je crée des partenariats. Comme par exemple, l'année passée, j'ai fait un gros spectacle et je me suis associée avec l'Académie de danse d'Outremont, avec l'école Joseph Charbonneau, mm-hmm. Alors, c'est plus dans... Puis comme j'ai des partenaires comme à Victor Doré, l'école spécialisée, souvent, ils distribuent des petits flyers pour annoncer les formations que j'offre là, aux enfants, aux adolescents et aux adultes.
Oui, parlez-nous de ces formations-là, particulièrement pour les enfants. Est-ce que c'est encore le temps de s'inscrire?
En fait, on a commencé une session de 6 semaines ce samedi. C'est pas mal complet. Par contre, ça c'était pour les enfants, mais on a une formation pour les adultes qui commence le 4 mai. En fait, c'est une formation qui va mener à un spectacle. Donc, c'est 2 sessions de 7 semaines. C'est au département de danse, au Conseil des arts de Montréal. Donc, c'est sur le plateau Mont-Royal. C'est des cours le jeudi soir de 18h à 20h qui vont nous amener là, au bout des 2 sessions, une session de printemps et une session aussi de 7 semaines au mois d'août septembre, donc fin de l'été, à un spectacle les 9 et 10 septembre au Parc La Fontaine. Et le nom du projet s'appelle Mandala Cercle de vie. Puis, c'est ça. En ce moment, on est en train de recruter. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui ont envie de se donner un défi, c'est pour des personnes avec et sans handicap. Et je dirais là, de 18 ans à 70 ans, je suis très fière parce que souvent, les projets de Corpuscule, on travaille vraiment avec des gens de 5 à 70 ans. Tant que le désir de relever un défi puis le plaisir de vouloir danser est là, nous, on est bien contents puis on intègre tous les gens qui veulent bien y participer.
Oui, cette année, dans le cadre de votre performance, des performances de votre compagnie, il y a le projet Quadriptyque. C'est ce que je vois dans mes notes. De quoi s'agit-il?
Quadriptyque, en fait, c'est un projet que j'ai lancé l'automne passé. C'est un projet de recherche avec 4 chorégraphes québécois, dont Sarah F. Grant, Lucie Grégoire, Benoît Lachambre et Déborah Donne. C'est des chorégraphes qui évoluent dans le milieu de la danse professionnelle. Et je leur ai lancé le défi de... Tous les chorégraphes ont 50 heures de recherche. Et au bout du 50 heures, on fait une présentation ouverte, donc comme un laboratoire. C'est pas une pièce finie. Et on échange avec le public. En plus des 4 présentations ouvertes avec les 4 chorégraphes, il y a une plateforme web. Les gens peuvent aller... elle est en ligne là, depuis octobre dernier au www.quadriptyque.com. Et là, ils peuvent voir justement des interviews avec les chorégraphes, avec les interprètes, des images aussi de danse, comment se déroule un processus de création. Il y a des textes également de la journaliste spécialisée en danse, Aline Apostolska, qui fait des analyses de fond sur différents sujets, qui fait des critiques et des billets d'humeur. Et il y a des textes également de moi. Alors, en fait, plutôt que d'écrire un livre sur la danse intégrée, j'ai voulu, faire une plateforme comme un livre, mais mettre ça sur Internet.
Donc, plein de choses dans ce que vous nous avez dit. On récapitule rapidement. Il y a encore de la place pour des cours sur le plateau Mont-Royal. Vous recherchez des gens pour le plateau, pour le projet Mandala. Et en plus, si vous voulez participer au projet Quadriptyque, qui est un projet de danse interactive, eh bien, il faut se rendre au quadriptyque.com sur le web. Je me trompe pas?
Oui, tout à fait. Mais j'inviterai aussi les gens ce jeudi 27 avril. Il y a une présentation à la Maison de la culture Mont-Royal. C'est juste en face du métro Mont-Royal. C'est gratuit. Et c'est le laboratoire de Sarah F. Grant. Et sur scène, on peut voir Maxime Despomerleau, Roya Ossini, qui est une danseuse australienne qui a une jambe et qui circule avec des béquilles canadiennes, et Joanie Douville, qui est une interprète du milieu de la danse contemporaine sans handicap. Alors,
c'est accessible?
Oui, absolument. Ah, tous les cours, tous les spectacles, tout ce que je fais, en fait. Moi-même, je suis tétraplégique, alors l'accessibilité dans ma compagnie, dans tout ce que j'offre, c'est vraiment une préoccupation de premier ordre.
Eh bien, Mme Geoffroy, je suis convaincu qu'on aura l'occasion de se reparler sous peu. Je vous souhaite une bonne chance, des projets magnifiques. Bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.
On se déplace au Népal, où les victimes du tremblement de terre du 25 avril 2015 sont encore nombreuses et encore handicapées, alors que certaines ne devraient pas l'être. Annabelle Symington de l'agence France Presse s'est penchée sur l'affaire. 2 ans après le 25 avril 2015, le séisme au Népal a laissé des blessures non seulement à la surface de la terre, mais aussi dans les corps, dont certains sont handicapés à vie. Le jour où le sol a tremblé, faisant 9000 morts et détruisant un demi-million d'habitations, l'ingénieur médical Samrat Basnet a ouvert ses portes pour accueillir une poignée de blessés qui ne pouvaient pas rester dans les hôpitaux débordés. Sa première patiente était une femme trouvée dans une allée avec d'importantes blessures à la tête. Déchargée d'un hôpital, elle avait besoin de soins. Samrat l'a ramenée dans sa maison où il avait du matériel médical à disposition. Très vite, docteurs et infirmières appelaient son téléphone pour savoir s'ils pouvaient récupérer quelques patients de plus. Au bout de quelques jours, les pièces étaient remplies, près de 25 blessés logés chez lui. 24 mois plus tard, 6 d'entre eux sont toujours là, allongés sur des matelas dans la petite maison convertie en clinique. Avec 7 travailleurs de santé pour 10 000 personnes, un cinquième du quota recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, le pays malayen était complètement sous-équipé pour gérer la catastrophe. À la suite du désastre, une cohorte ininterrompue d'estropiés s'est dirigée vers la capitale Katmandou, les victimes ne pouvant être traitées dans leur région d'origine. Une fois rapidement soignées, les hôpitaux les déchargeaient pour faire place aux prochains. Nombre d'entre eux n'avaient nulle part où aller. Certains retournèrent à leur maison détruite où ils ne purent pas recevoir les suivis médicaux nécessaires. Il n'existe pas de chiffre exact des personnes rendues handicapées à vie par le séisme, mais certaines études les estiment à environ 3 000. Un pourcentage significatif de ces handicaps aurait pu être évité si les patients avaient reçu des soins adaptés, a considéré l'année dernière un rapport des Nations Unies. Dans la maison de Samrat Basnet, un homme de 28 ans gît sur son lit, complètement paralysé. Krishma Hari Pudasani était guide de montagne. Maintenant, le tétanos, une égratignure au pied, l'a paralysé à vie. Et voilà qui conclut cette édition du 24 avril 2017 de vos Paractualités. On remercie à la mise en onde de Jean-Sébastien Laliberté, à la recherche Christiane Campagna. Et on vous invite à vous déplacer en grand nombre pour assister au défi sportif AlterGo. C'est François Brodeur qui vous souhaite une bonne journée et vous dit à demain.